sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Como, Corinne Rondeau et Jean-Christophe Ferrari pour parler ensemble de J'accuse de Roman Polanski, Donnie Darko de Richard Kelly, Le Mans 66 de James Mangold. Et il y aura un coup de cœur de Jean-Christophe Ferrari pour Noura Rêve d'Inde Boudjema. Nous ouvrons cette dispute avec le nouveau film de Roman Polanski, J'accuse, qui s'intéresse à l'homme qui révéla la vérité sur l'affaire Dreyfus. Un film dont la sortie a été précédée d'une nouvelle accusation de viol par le cinéaste, cette fois par une Française, Valentine Monnier. Accusation qui s'ajoute à de nombreuses autres. Avant peut-être de revenir sur le film, sur ce contexte particulier, suite aussi aux révélations d'Adèle Haenel sur son agression par Christophe Ruggia, agression que le réalisateur conteste à ce jour. On va écouter tout d'abord la bande-annonce de J'accuse.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison.
La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres.
Vous êtes désormais responsable du renseignement.
Mon colonel.
Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître,
je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée.
Mon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres.
Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus.
Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même.
Où est le dossier secret sur Dreyfus? Désormais, je m'en chargerai personnellement.
On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi.
Peux-tu prouver tout cela?
Je voudrais éviter un scandale.
C'est déjà un scandale.
Tu devrais quitter Paris quelque temps.
Et toi?
J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola.
Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus.
Vous non, mais moi si.
Demandez, Laurent, demandez.
J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle.
J'accuse le général Billon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées.
J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux.
Traître! Quand une société en est là,
assassin !
Elle tombe en décomposition.
Alors, c'est évidemment un titre, J'accuse, qui sonne très fortement, qu'on le veuille ou non, après les nouvelles accusations de viol portées contre Roman Polanski. La question se pose d'un possible regard critique sur l'œuvre. C'est une question, en tout cas, qui est beaucoup revenue ces derniers jours. Pour ma part, je n'ai pas vu le film. Donc, je ne pourrais pas prendre part à votre discussion, mais je vais l'écouter attentivement. Premier tour de table, rapide, pour recueillir votre sentiment. Lucille Como.
Oui, c'est un film bien ficelé qui aurait gagné à assumer tout à fait son parti pris, c'est-à-dire celui de représenter le procès derrière le procès.
Jean-Christophe Ferrari.
Rigoureux et contemporain.
Corinne Rondeau. Qui a une légère extinction de voix.
Je m'appelle Corinne Corleone ce soir. Non, je trouve le film absolument remarquable. Dans la direction d'acteur et dans la reconstitution du procès, voire même le Paris de l'époque.
Lucille Como, comment est-ce qu'on voit ce film quand même dans ce contexte? Comment vous l'avez vu, vous, en tout cas?
Alors, disons, d'ordinaire, je camperais sur une position assez simple selon laquelle on regarde des films et non pas des affaires et en dehors d'un réalisateur. D'ailleurs, le film est le produit, comme on l'a dit la semaine dernière ici même, de beaucoup d'autres choses que les intentions mêmes et les gestes artistiques de son réalisateur. Là, c'est particulièrement vrai. On parlera des acteurs qui sont quand même assez impressionnants. Bon, le fait est qu'on a du mal à le regarder complètement en dehors de ce contexte, aussi parce que le film, comme vous le disiez, s'appelle J'accuse. Et que c'est un film qui appartient à un genre cinématographique assez fléché, qui est le film de procès, et que la question de la vérité et de la représentation de la vérité, qui est en plus articulée, parce que époque oblige, à la question de l'honneur d'un homme, résonne de manière particulière. Il faut dire aussi qu'il y a un caméo de Polanski à l'intérieur du film, donc on le voit lui à un moment, même si c'est fugace, ça crée un effet. Et puis que c'est quand même l'histoire, c'est même assez flagrant, de ce que c'est que la justice, de ce que c'est que l'opinion publique, d'à quel point un média, en l'occurrence un journal, peut anticiper une décision de justice, en tout cas travailler l'institution judiciaire, puisque l'histoire, c'est l'histoire d'un, même si c'est secondaire et que ça arrive assez loin, d'un écrivain, donc un intellectuel, en l'occurrence Émile Zola, qui écrit une longue lettre, j'accuse, dans un journal, l'Aurore, et
adressé au président de la République.
Voilà, pour combler les manquements de l'institution judiciaire française qui patine à ce moment-là, et à quel point ça a une influence ensuite, à la fois sur l'institution judiciaire, mais aussi sur toutes les institutions politiques, intellectuelles, et à quel point, à tel point qu'on en parle encore aujourd'hui. En fait, Picard, c'est terrible. Enfin, c'est, y a un côté un peu ironique, voire cynique, en voyant la situation actuelle. C'est un lanceur d'alerte, dans les termes les plus contemporains.
Ça, Jean-Christophe Ferrari, comment est-ce que vous l'avez vu, vous, ce film dans le contexte?
Alors moi déjà je l'ai vu avant le contexte, puisque je l'ai découvert à Venise, et ce qui m'a frappé...
Enfin, la sélection de Polanski à Venise n'était pas allée de soi, Lucrezia Martel qui était présidente du jury...
Oui, avait protesté.
Donc, oui. Le contexte suit Polanski depuis quand même 40 ans maintenant.
Absolument, mais il n'y avait pas les dernières accusations, et donc c'était moins brûlant. Et moi, ce qui m'a frappé en voyant le film à Venise, c'était son actualité, mais justement son actualité par rapport à la représentation d'une France encore antisémite, encore xénophobe. Et à cet égard, j'ai vraiment été saisi à la gorge en le voyant à Venise par la manière dont le film résonnait avec l'actualité. Alors, par ailleurs, il est vrai que la réception critique de ce film est rendue difficile par les accusations récentes, mais ce sont des accusations, et à ce titre-là, on est obligé, il me semble, en tant que citoyen, de respecter la présomption d'innocence. Polanski se défend de ces accusations. Polanski n'a jamais été condamné pour viol, contrairement à ce que je lis parfois dans la presse et les réseaux sociaux. Il a été condamné pour relations sexuelles avec mineurs, ce qui est condamnable sans doute, mais différent. Donc, à partir du moment où, moi je suis pas juge, je suis critique du cinéma, à partir du moment où une décision de justice me dit pas que Polanski est coupable, c'est pas à moi de me prononcer à cet égard. Et je ne me fais pas l'avocat de Polanski, je critique le film, simplement.
Corinne Rondeau, pour vous?
Moi, je trouve que des faits prescrits, les dénoncer à la sortie d'un film, ça me laisse un peu perplexe. Donc, quand les féministes appellent le public à être des complices de ce film, en dénonçant Polanski pour des faits qui viennent d'être décrits ici, je me pose aussi la question de, comme disait Cocteau, hein, le drame de notre temps, c'est que la bêtise est mise à penser, quoi. Donc, moi, je veux parler du film et de... Le caractère contemporain, sans doute, y est-il, mais il est aussi dans un écart, car l'antisémitisme qui est frontal, direct, dès le début du film, est un, il faut pas l'oublier, l'antisémitisme 19e en France, c'est un antisémitisme de classe, de mépris. Et c'est la raison pour laquelle le lieutenant-colonel Picard, l'homme qui est au milieu, c'est-à-dire le nom moins résonnant, moins dominant, j'accuse, pour nous, c'est Zola. On ne sait pas. Mais j'accuse, c'est quand même le nom qui appelle, c'est le mot qui appelle, la croche qui appelle le nom de l'écrivain. Et quand on connaît pas l'histoire, on va voir Zola. Et le film, c'est d'abord un homme qu'on va mettre sur une île pour que personne ne l'écoute, l'île au diable, près de la Guyane. Et la fin du film, c'est Zola qui va dire, je vais écrire pour vous parce que vous ne pouvez pas sortir de votre réserve. Et donc, ce film, il est assez beau, je dirais, dans cette espèce de parenthèse, c'est-à-dire que les noms propres, les noms connus, Dreyfus qu'on connaît pas, en fait, mais on connaît l'affaire Dreyfus, on sait pas faire la différence entre le Dreyfusisme, les Dreyfusards, les anti-Dreyfus, bon bref. Et puis Zola, on sait qu'il a écrit, mais il a écrit quoi? D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller au musée du Barreau, qui est rue du Jour, tout petit, il y a une exposition sur J'accuse, avec des lettres, avec des facsimilés, où on va voir des affiches monstrueuses avec Zola ou l'avocat assassiné pendant le procès de Rennes pour le deuxième procès de Dreyfus. Mmh. Moi, ce que j'ai aimé, c'est dans un rappel aussi à Ghostwriter. Mmh. C'est un film que j'aime profondément, de Polanski, qui est une manière de reconstituer, parce que Lucille parlait de la vérité. Effectivement, c'est la question de la vérité qui est en jeu. Et l'antisémitisme qui est à l'intérieur du début du film, fait par un juif, Polanski, dont une partie de sa famille quand même est morte en déportation, j'ai envie de dire que à cet endroit-là, ce que fait Polanski, c'est de chercher une vérité à l'intérieur du cinéma aujourd'hui. C'est pas du tout pour moi le miroir de sa propre existence sur des accusations, etc. Donc je trouve le film magnifique sur comment reconstituer et comment refaire apparaître des anonymes à l'intérieur de cette grande histoire de la justice française.
Jean-Christophe Ferrari.
Oui, moi aussi, j'y vois pas tellement un autoportrait de Polanski. Et ce qui m'a vraiment frappé en voyant le film, ce que j'ai trouvé admirable, c'est la précision et la rigueur de la mise en scène. C'est-à-dire comment Polanski arrive à filmer quelque chose de monstrueux, un mensonge d'État organisé, une erreur judiciaire basée sur un antisémitisme farouche, en filmant le décor. C'est-à-dire que on sent le mensonge, on sent tout ça uniquement par la manière dont il utilise les portes qui s'ouvrent, les longs couloirs étroits, les rues étroites aussi, les fenêtres qu'on n'arrive pas à ouvrir, etc. Et toute la mise en scène de Polanski passe par le décor, et en ça, c'est d'une puissance visuelle incroyable. Et d'ailleurs, je noterais que c'est les scènes en extérieur peut-être qui sont un peu plus faibles dans le film. Et j'ajouterais aussi que il faut dire un mot sur la direction d'acteur, parce que
Peut-être juste avant, quand même, le regard de Lucille Comeau, et vous reviendrez sur les acteurs dont vous avez tous les trois envie de parler. Lucille Comeau.
Oui, moi, c'est un film auquel je m'attendais pas. Je trouve que vraiment beaucoup moins que l'affaire Dreyfus, ce qui est en jeu, c'est tout ce qui a permis son avènement. Donc, évidemment, l'antisémitisme, qui est traité comme une sorte de, c'est terrible, comme une sorte de contexte naturel, culturel, global. Donc, ça passe par des allusions. Ça passe jamais par des accusations franches. C'est-à-dire que la question est, mais c'est assez intéressant de ce point de vue-là. C'est une vraie question politique. C'est-à-dire que le film montre à quel point l'antisémitisme, à l'époque, était naturel parmi les classes dirigeantes. Et à quel point elle était articulée à un projet politique global. Ça, je trouve ça assez passionnant. Et ça passe par cette espèce de déport d'un récit sur un autre, c'est-à-dire du récit Dreyfus sur le récit Picard, donc ce personnage qui a d'abord servi les rouages du système en participant à sa dénonciation, puis qui s'est retourné et qui est devenu ce qui l'aiguille, qui fait foirer un peu tout le système. Et ça, je trouve ça assez intelligent. Le problème, c'est que je pense que ce n'est pas totalement assumé par à la fois par le scénario et par la mise en scène. Et je trouve que il aurait été plus fort de ce point de vue-là, plus fort politiquement, de ne pas du tout représenter Dreyfus. C'est-à-dire que là, il y a quand même plusieurs scènes qui cherchent l'empathie du spectateur, l'empathie pour un homme, pour une destinée personnelle. Il y a par exemple un moment où Picard se trouve en présence des lettres que Dreyfus envoie à sa femme depuis son exil, depuis le bagne, et qui sont des lettres personnelles sur lui, sur son sentiment d'injustice, ses enfants, ce qu'il laisse à ses enfants comme héritage, qui tire un peu les larmes, enfin qui ont un effet à chercher l'empathie du spectateur sur sa personne, alors même que en fait le personnage Dreyfus, à la limite, l'évacuer totalement du film, ça aurait été plus fort d'un point de vue politique, parce que ce qu'il s'agit de représenter, c'est vraiment ce que décrit Zola. Il y a un moment où sa lettre est lue plus ou moins, enfin il y a des grands extraits de sa lettre qui sont lus. C'est la décomposition d'une société entière, et faire fi totalement de la destinée personnelle de Dreyfus aurait été un geste. En fait, c'est un peu fait, mais c'est pas totalement assumé. Et ça aurait peut-être été plus beau de centrer sur un film de genre, un film de procès pur. Et de ce point de vue, en effet, les extérieurs sont un peu en trop. On comprend pas bien pourquoi on sort des institutions, on sort des salles de procès, on sort des bureaux des ministres. On aurait préféré rester dans la pure procédure pour un film vraiment sur l'institution française. Ça, ça aurait été peut-être plus fort.
Bon, peut-être pour l'édition DVD, le Lucille Comeau Cut, hein, sans les scènes avec Dreyfus. Jean-Christophe, vous vouliez parler de la distribution et la direction d'acteurs.
Oui, parce qu'effectivement, on entend beaucoup dire que Jean Dujardin est admirable dans le film. Et c'est vrai qu'il réussit ce tour de force en 1 minute 30 à nous faire oublier OSS 117, Brise de Nice.
Mais pas Lucille Comeau.
Si, presque.
Qui adore OSS 117.
En plus, c'est un espion. Enfin,
c'est pas lié seulement à la performance de Jean Dujardin, mais vraiment, je crois, à la direction d'acteur de Polanski, qui sait très bien faire alterner et dialoguer le jeu du jardin, impassible, économe de gestes, toujours sur la dignité, et les autres personnages avec des comportements beaucoup plus fuyants, des gestes beaucoup plus évasifs. Donc moi, je parlerais vraiment d'une direction d'acteur au niveau de tous les films, plutôt que de me focaliser sur la prestation de Dujardin.
Corinne Rondeau.
Oui, les acteurs sont formidables. Dujardin est un grand acteur là, dans ce film. Dans la mesure où, en fait, il est le prof de Dreyfus. Il y a une scène comme ça, il a un flashback.
Il est son professeur ?
Il est le professeur, il est l'enseignant d'une promotion dans laquelle il y a Dreyfus. Dreyfus va le chercher parce que Dreyfus n'était pas un homme très aimable quand même dans la vie. Et d'ailleurs, Louis Garrec, qui l'incarne, est tout à fait assez objectif dans son jeu, même si on le voit peu, au début et à la fin d'ailleurs. Et lui dit « Je suis le seul à ne pas avoir eu de notes au-delà de la moyenne, donc je suppose que c'est votre antisémitisme. » Et Picard lui répond « Cher monsieur, nous ne passerions pas quelques jours ensemble, c'est certain, mais cette situation n'altère absolument pas mon jugement. » Et ce qu'on pourrait estimer être une manœuvre, une hypocrisie, ne l'est pas. Parce qu'il y a la morale, parce que Picard incarne un être d'une moralité absolue, et c'est ça aussi le mépris de classe et l'antisémitisme de l'époque, c'est à quel point le salaud qui pourrait être celui d'aujourd'hui ne l'est pas tout à fait au 19e, à la fin du 19e. C'est-à-dire que les valeurs morales et ce pourquoi nous sommes et la fonction que nous incarnons et reste la vérité absolue de notre être. C'est la raison pour laquelle cette première scène gigantesque, mémorable de l'entrée de quelques militaires dans la cour militaire où on voit les invalides à la tour Eiffel, où on va crier qu'on va dégrader le capitaine Dreyfus, est gigantesque. Cette manière de dégrader, ce mot dégrader, qui est enlever l'uniforme, tout ce qui fait le grade, c'est aussi
arracher
dégrader.
Arracher les galons.
Oui, c'est arracher quelque chose de l'existence. Et ça, je trouve que c'est très beau, parce que les gens qui portaient l'uniforme à l'époque ne faisaient pas que la porter. Et c'est tout ce qui s'effondre aussi à cette époque, entre ceux qui ont la dignité de le porter, et ceux qui, malgré tout, n'auront ni morale, ni éthique, ni rien du tout. C'est-à-dire ceux qui font la politique.
Lucille Comeau.
Oui, c'est intéressant la manière dont la dégradation est traitée, parce que on aurait pu imaginer qu'à l'écran, ça passe par une forme de décomposition physique. Il y a très peu d'organique dans ce film. C'est un film qui est très sec. Alors que, quand on pense à Zola, est-ce que ça voulait dire la décomposition pour lui, la décomposition d'un corps social? C'était aussi la décomposition physique. Or là, on a affaire à un film très sec, très théâtral. Bon, il y a toute la comédie française, il faut quand même le dire, qui défile. Ce qui fait que quand on a une expérience, bon, c'est pas le cas de tous les spectateurs, mais de la comédie française, il y a quasiment un jeu de qui est-ce, on attend le prochain. Quoi. C'est vraiment tous les hommes, en gros, de la comédie française sont là. Et ce n'est pas anodin, c'est aussi, ils sont là en tant qu'institution, c'est intéressant. Et ils sont là presque figés dans leurs emplois de théâtre. Donc tous les acteurs surjouent ce qu'ils savent faire de mieux. Et il y a un côté assez artificiel, mais je pense qu'il est assumé. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que la direction d'acteur est admirable. Mais ça donne quelque chose de très sec, où la dégradation morale, comme vous le disiez, n'est jamais une dégradation organique, n'est jamais une dégradation physique. Il y a quand même un moment qui est assez intéressant, parce qu'en fait, Picard vient remplacer un lieutenant-colonel qui dirigeait avant lui, et qui est atteint de la syphilis, qui est quand même la grande maladie du naturalisme et du 19e, et Dieu sait si Zola en a décrit des scènes de mort de la syphilis. Et là, c'est vraiment presque traité comme une farce. Il a des boutons en plastique, Eric Ruff. Vraiment. Non, mais c'est drôle. Je pense vraiment que c'est fait exprès. Je pense que c'est vraiment fait exprès de toujours vouloir mettre à distance l'humanité charnelle de tous ces personnages-là, et pour en faire uniquement des instances institutionnelles. Et pour c'est à mon avis toute la force du film tient à ça. Et j'aurais aimé que ça s'affirme davantage, que vraiment que ce soit plus à l'os, quoi, que ce soit plus sec encore.
Bon, écoutez, donner envie d'aller voir quand même. Je ne sais pas. J'accuse. Roman Polanski est en salle depuis mercredi, où il a fait visiblement un bon démarrage en termes d'entrée. On parlait du film de Roman Polanski ce soir. À suivre dans la dispute Donnie Darko, Le Mans 66 et Noura Rêve.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Donnie Darko de Richard Kelly, qui est sorti dans la fameuse collection Ultra Collector chez Carlotta, ce qui implique le film en l'occurrence en deux DVD et deux Blu-ray, parce qu'il y a la version cinéma et puis la version Director's Cut du film. On trouvera aussi dans le coffret un très long entretien avec Richard Kelly et le scénario de tournage, beaucoup de photographies également. Le terme culte est assez galvaudé, mais là il pourrait quand même assez servir pour ce film qui révéla Jake et Maggie Gyllenhaal, qui partage ici l'affiche avec Drew Barrymore, qui est productrice du film, et Patrick Swayze. Le film fut quand même un échec financier assez considérable, malgré le soutien à l'époque de Christopher Nolan, à l'époque de la sortie du film, qui aida la sortie du film en 2001. On pourrait dire que c'est un film, un teen movie avec voyage temporel qui nous arrive peut-être avec 19 ans de retard.
Wake up, Donnie.
I met a new friend.
Real or imaginary?
28 days.
Imaginary.
6 hours. 42 minutes. 12 seconds. Do you believe in time travel?
I'm going to tell you a little story today about a young man whose life was completely destroyed by these instruments of fear.
Under a blue moon I saw you. So soon you'll take me up in your arms.
You want to tell Mom and Dad why you stopped taking your medication?
Bon, un film qui a dans sa bande originale Killing Moon de Echoen de Bunnyman ne veut pas être un film complètement raté. Surtout qu'en plus, il y a Joy Division, The Church et quelques autres. Bon, il y a aussi des fautes de mauvais goût. Il y a quand même Tears for Fears. Je m'arrêterai là. Premier sentiment sur Donnie Darko, Corinne Rondeau.
J'ai rien compris, mais c'est plaisant.
Jean-Christophe Ferrari.
Je suis irrité et attendri à la fois.
Et Lucille Como.
Moi, je dirais que j'ai tout compris, justement. Et que c'est pas terrible.
Ah
non, je dirais que je dirais qu'il y a un côté cool du film culte aujourd'hui qui entre un peu en conflit avec ce mystère qu'il est censé entretenir.
Vous développerez votre pensée dans un instant.
J'ai peur là.
Je sais parce qu'on parle au bureau, mais nos auditrices et auditeurs peut-être se posent des questions. Mais alors, comme Corinne Rondeau n'a rien compris mais a beaucoup aimé.
Non, j'ai
pas beaucoup.
Comment?
Pas beaucoup aimé.
Si. Non, j'ai été très téméraire et pugnace. Je l'ai revu.
Ben non.
En me disant, quelque chose doit bien traîner quelque part. Et je lui trouve en fait des moments extrêmement de grâce, très très forts. Des moments où dans le montage alterné de certaines séquences, il n'en met pas deux, il en met trois, voire quatre. Mmh. Et je trouve ça assez remarquable, sauf que dans la durée, effectivement, où on passe à travers... Alors, l'histoire, c'est un jeune...
Oui, je ne l'ai même pas dit, pardon. Oui.
Le jeune vit dans une famille, il aurait des troubles un peu schizo, parano, etc.
Il aurait mis le feu à une maison.
Voilà, il a des visions où il voit un personnage qui a une tête de... un masque de lapin un peu effrayant. On est à la période de Halloween. Bon, tout ça se mélange. Donc, on a l'école, on a les teenagers, on a la famille... On a la psychiatre, etc. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a une recherche de ce jeune au milieu de ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi le monde? C'est quoi la vie? Et il y a un autre personnage, une sorte de sorcière qui aurait écrit un livre sur
le voyage temporel. Le
voyage temporel, qui découvre.
Philosophie du voyage temporel.
Voilà. Et donc après, il y a, au milieu du film, il y a un chapitrage de ce livre qu'il découvre. Donc le livre, le film n'arrête pas de se complexifier à travers certaines fréquences, je dirais, vibratoires. Et on a, je dirais, un film un peu à la... C'est pas une bande de Mobius au sens où vous êtes toujours sur une surface et vous vous retrouvez à un moment donné, même si vous avez la tête à l'endroit et à l'envers. Là, vous avez un passage. Dans tout le film, c'est de chercher le passage. Et donc, il y a des scènes comme ça qui apparaissent comme des passages. Alors, c'est le passage avec des effets spéciaux. Il y a une discussion avec le prof de physique où il cherche le portail. Il y a le livre où il y a les univers tangents, etc. Et puis, il y a la psy. C'est la psychose. Enfin, vous voyez, vous dites, mais par où ça passe, son machin? Et donc, tout le film, en fait, c'est des tentatives de passer par... C'est chercher le trou pour faire le passage. Je pense qu'à 18 ans, à 16 ans, à 15 ans, on cherche des issues. Et donc, il y a des séquences avec des trampolines. On se dit, bon, là, ça tente de s'élever, mais bon, ça passe pas. Puis d'un coup, il y a des cuts comme ça, avec... Et on passe de la musique à plus rien. Donc c'est très beau, ces rythmes comme ça qui s'effondrent. Et puis, il y a ce passage dans le temps. Alors, on ne sait pas, je dirais, ce qu'on a fait comme voyage. Je ne sais pas si c'est le voyage du réel chez le psychotique, à savoir, même l'hallucination est réelle, puisque chez le psychotique, l'hallucination est réelle, ou si, effectivement, c'est une manière pour ce jeune, avec toute son énergie, de protéger le rêve de la vie. C'est-à-dire qu'il faut protéger tout le monde, quitte à mourir soi. Mmh. Puisqu'en fait, le film est quand même lié à un événement qui a une double vie. Celle d'un
réacteur
qui tombe dans la maison. D'un côté, il est vivant. Et de l'autre, il arrive le malheur, on va dire. Mmh. Puisque c'est un film sur une conscience apocalyptique. Et donc, en fait, il y a ce double mouvement auquel on ne peut croire à aucun des deux. Donc, c'est quand même assez excitant. Ce qui fait que c'est pour ça, sans doute, que je l'ai vu trois fois.
Jean-Christophe Ferrari.
Oui, alors moi, je suis d'habitude très sensible au mélange des genres au cinéma. Et là, c'est un film qui pratique le mélange des genres. Il y a du teen movie, du film fantastique, de la comédie noire, etc. Sauf que je trouve que la greffe, l'hybridation ne prend pas. Et que justement, entre ces différentes histoires, est-ce que ça nous raconte l'adolescence comme névrose? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un récit de sacrifice? Est-ce qu'il s'agit d'une véritable méditation sur le voyage dans le temps? Je trouve que tout ça se perd. Finalement, tout ça nous égare et le film a du mal à traiter véritablement un sujet. Et du coup, ça donne, à mon sens, quelque chose qui est quand même un peu de l'ordre d'une petite bouillie New Age et un peu sous Lynchéen. D'autant plus que le film est filmé avec quand même beaucoup de préciosité, d'affêterie visuelle et une création de l'univers sonore qui est hyper sophistiqué, mais qui donne à l'ensemble quelque chose d'un peu arty et vain à mon sens. Mais cela dit, le film a du charme, j'en parlerai peut-être dans un deuxième temps.
Lucille Comeau.
Oui, moi je suis au contraire pas du tout égarée en fait par ce film. Je trouve que c'est un film qui montre en permanence son ambition, disons métaphysico-philosophique. On sent que c'est un film qui veut se placer dans la lignée d'un certain cinéma où on n'a pas de réponse. Donc en effet, Lynch, c'est évident, on y pense, mais bon, comme tous les films qui regardent un peu vers ce cinéma-là, c'est difficile d'être à la hauteur, donc ça pêche un peu par la référence, je dirais. C'est un objet théorique, en fait. C'est un objet qui ne cesse de montrer qu'il veut être théorique, donc qui fait des références à tout un cinéma, qui est d'ailleurs pas contemporain de la réalisation du film, donc c'est le début des années 2000, mais de l'époque où se passe le film, parce que c'est un film qui se passe à la fin des années 80, donc il y a beaucoup de références au cinéma et à la littérature de ces années-là.
Il y a Evil Dead, la Tentation du Christ et quelques autres.
Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, donc on a l'impression qu'il faut cocher les cases. Moi qui suis pas très familière de tout ce cinéma et de cette pop culture de ces années-là, j'ai l'impression qu'on me montre en permanence que c'est ça qu'il faut aller regarder. Il y a beaucoup de mise en abîme des problèmes, c'est-à-dire par exemple, il y a une prof de français qui fait lire à ses élèves une nouvelle de Graham Greene dans laquelle il est question d'adolescents qui sont en pleine crise et qui brûlent une maison. Donc, tout, et ce qui arrive aussi dans le film, tous ces effets de mise en abîme, de théorisation, de thématisation. Vous parliez, Corinne Rondeau, de la multiplicité des portes. Taille. De fait, c'est assez fléché. Il y a quand même un portail principal dans une scène cruciale du film où le personnage se retrouve avec ce fameux ami imaginaire et sa petite amie qui, évidemment, dort à ce moment-là dans un cinéma devant un film d'horreur. Et à ce moment-là, on comprend concrètement, très simplement, hein, finalement, que le fameux vortex et que le fameux portail, c'est l'écran de cinéma. Donc, tout ça se regarde un peu être. Le portail, c'est le cinéma, c'est le portail. Il y a une forme de vanité dans la multiplication des références et dans, encore une fois, cette espèce d'ambition trop marquée d'être un objet culte par les questionnements que le film peut susciter. C'est assez intéressant, d'ailleurs, de lire la petite introduction de Jay Gyllenhaal qui est au début du livret du coffret où il parle beaucoup de ça, de son statut d'objet culte, de à quel point il est cool aujourd'hui et à quel point on l'arrêtait dans la rue quand il était jeune pour lui demander mais c'est quoi en fait Donnie Darko, qu'est-ce que ça raconte.
Non, vous faites une erreur d'interprétation, ma chère Lucille, basée sur un fait, parce que le petit texte de Jack Gyllenhaal est de 2003.
Oui, tout à fait.
Juste après la sortie, c'est-à-dire que lui-même était encore très très jeune.
Non, mais je le sais, mais j'imagine qu'à l'époque ça a créé une forme de perplexité en effet, mais je pense que quand on le regarde aujourd'hui, avec en plus cette espèce de pression parce que c'est devenu un objet culte, moi c'est la première fois que je le vois, donc je suis totalement dans ce
moi
cas-là.
Aussi. J'éprouve
une forme de nostalgie de ne pas l'avoir vu à une époque où c'était encore un peu intéressant de le voir, ou une forme de perplexité devant la vanité de l'objet.
Non, moi ce que je trouve assez réjouissant dans ce film, c'est qu'effectivement il est extrêmement impur, et moi j'aime bien cette impureté, au contraire de Jean-Christophe Ferrari qui, pour le cas présent, ne l'aime pas beaucoup, parce qu'il me semble que justement, c'est un film qui est à la fois très clairement l'enfant de Blue Velvet, mais aussi de Retour vers le futur. Mmh. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne cet objet extrêmement étrange. Alors, pour moi, rien n'était fléché. Chaque scène qui arrivait, je ne m'y attendais pas, forcément. Je ne savais pas où on allait. Je ne savais pas ce que cette vieille dame, quel rôle elle allait jouer. Enfin, je n'avais pas idée de la résolution du tout. Et moi, j'ai aimé me perdre, mais il me semble quand même qu'il y a une chose assez, assez claire qui est tracée. Je pense que c'est un film qui est tout à fait compréhensible. Si on veut bien, non, enfin, Corinne Rondeau s'étonne, mais pour moi, il est très clair, du début à la toute fin. Mais j'aime bien cette impureté, en fait. C'est elle qui me réjouit le plus. J'aime beaucoup Maggie Gyllenhaal. J'étais content de la voir toute jeune. Et donc, comme aujourd'hui dans The Deuce, cette série que nous adorons. Mais voilà, je trouve qu'il y a une grâce toute particulière. Drew Barrymore, je me dis que c'est quand même, elle est passée à côté d'une carrière qui aurait dû être plus riche. Elle a une étrangeté. Bon, Patrick Swayze, que je déteste, il est formidable dans ce film parce qu'il est tout à fait détestable. Donc ça, c'est absolument parfait. Je sais pas, moi, il y a une forme de grâce presque involontaire, en fait. Je crois qu'il cherche pas du tout le statut du film culte. Je pense que c'est un film d'une très grande naïveté. Et c'est aussi pour ça qu'il m'a touché. Jean-Christophe Ferrari.
Oui, moi, je voudrais rebondir sur cette idée de grâce involontaire. Il me semble effectivement que, malgré le caractère un peu plombant des ambitions du réalisateur, il y a effectivement, peut-être dû à sa jeunesse, à ses collaborateurs, etc., quelque chose qui émane une espèce de singularité persistante qui fait que c'est un film qui sort du lot, notamment, par exemple, dans le fait de filmer ces corps adolescents avec parfois des sourires, des grimaces, etc., des choses auxquelles on s'attend pas du tout, et puis des moments comme ça un peu flottants qui effectivement restent à l'esprit. Et puis, comme vous le disiez très bien, un film qui a pour chanson Économie humaine ne peut pas être complètement inintéressant.
Ouais, d'accord. Et j'aime beaucoup aussi les parents des enfants d'Arco. Corinne Rondeau.
Oui, mais juste pour dire que il faut compter, comme le dit le professeur d'anglais ou de français, le miracle narratif.
Oui, le miracle narratif.
Je pense que, et j'aime beaucoup votre expression d'impureté, ça c'est tout à fait juste, je crois. Il ne peut pas y avoir de grâce sans impureté, de toute manière. Donc ça va très très
ça.
Bien. Non mais j'étais pour la grâce, vous parlez d'impureté, je trouve que c'est très juste. Je pense pas du tout qu'il y a de l'ambition, je pense qu'il y a il y a une jeunesse folle. C'est la grâce qu'a perdu par exemple
attention,
comment il s'appelle celui dont on ne veut plus parler maintenant,
je ne sais pas, du
le
tout.
Canadien,
ah, votre ami,
oui. Mais je pense que les 25 ans là, quand on a cette matérialité, qu'on a toute cette matière sonore, toutes ces références, et c'est juste ce côté Retour vers le futur et Blue Velvet, pas du tout le Lynch qu'on connaît, ouais, parce qu'ils n'y sont pas. Je trouve que c'est très juste. Je trouve que c'est pas l'ambition métaphysique du discours, c'est que des images et traverser ces images. Je trouve ça assez prodigieux. Et je crois qu'en fait, il ne cesse de vouloir, s'il a une ambition, c'est de vouloir convoquer le spectateur. Et c'est ça le miracle narratif. C'est-à-dire, y a-t-il quelqu'un derrière l'écran? Et pas regarder la porte qui s'ouvre vers l'écran.
Lucille Comeau.
Non, ce qui est sûr, c'est que dans la jeunesse, en tout cas, ce qui passe, je trouve, de la jeunesse du réalisateur, peut-être, ou en tout cas du film, c'est la manière dont parfois sont représentés les adolescents, notamment en groupe. Et là, du coup, le teen movie fonctionne à plein. Il y a notamment une scène qui se répète deux fois, d'adolescents qui attendent le bus, je pense. Mmh. En tout cas, ils sont plusieurs,
le bus scolaire,
ils ont des âges
ouais.
différents. Et ils sont dans une violence verbale des échanges. Enfin, c'est drôle, parce que évidemment, ça crée la cruauté. Fait toujours une forme d'humour. Et là, il y a une forme de spontanéité dans l'écriture des dialogues, tout simplement. Il y a un moment où il y a quand même un grand qui dit à une petite, si tu fais je sais plus quoi, si tu racontes tel truc à mes parents, je balance ton doudou dans le vide ordure. Enfin, ce genre de réplique, voilà, au broyeur.
Le broyeur. C'est ce Ariel de, voilà. dans le broyeur.
Ouais, voilà, Ariel, exactement. Ce genre de réplique-là et l'écriture des dialogues à ces endroits-là garde une forme de fraîcheur, bon, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas de spontanéité qui fonctionne bien. Donc c'est vraiment dans le genre du teen movie, peut-être que le film s'épanouit mieux. Ouais.
Alors pour clore cette séquence, rappelons que c'est donc cette édition des coffrets Ultra Collector chez Carlotta et que dans le côté livre, il y a ce long entretien que j'ai encore un peu parcouru, mais pas complètement. Et par contre, le scénario est intéressant parce que les couleurs permettent de voir ce qui a été dans la director's cut et ce qui a été carrément coupé totalement en montage. Donc, c'est juste en orange quand c'est coupé, en bleu quand c'est une director's cut et noir. Pour ce qui est la version cinéma, Lucille.
Oui, juste à ce propos, c'est intéressant d'ailleurs de voir ce qu'il a coupé. Il a coupé beaucoup de Dieu. Moments qui explicitaient.
Il a beaucoup coupé
oui.
Dieu.
Et oui, et beaucoup de moments qui explicitent la pathologie du personnage de Donnie Darko et les explications un peu rationalisantes ou justement les références qui peuvent y avoir à la psychanalyse, etc. Donc, ça aurait pu être pire, disons.
Non,
c'est méchant. Non, je ne l'ai pas
méchant,
fini
méchant.
Là-dessus.
Allez, Donnie Darko.
Voilà, le mouvement d'explicitation a été quand même un peu coupé.
Bon.
Mais vous avez vu la directeur Scott ou pas?
Oui, ouais, bah, en fait, on voit... Oui, oui.
Non, mais vous l'avez vu.
Ah non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai
vu,
en fait, dans le... Ah, voilà. Mais donc, coup, c'était encore plus explicite que ce que moi.
Mais pas du tout.
Bon, Donnie Darko de Richard Kelly, version cinéma, version Director's Cut, en DVD, en Blu-ray. On a tout ça dans ce coffret chez Carlotta.
الولاد من وقتاش امكم تنيك مع الاسعد
اذكر
C'est l'heure du coup de cœur. Ce soir, c'est Jean-Christophe Ferrari dans Le cœur bat pour Noura Rêve d'Inn Boudjema qui est sorti ce mercredi. Pourquoi ce coup de cœur?
Alors, ce coup de cœur parce que c'est un film dont le point de départ est un sujet de société. Hein, le fait qu'en Tunisie, l'adultère est puni de 5 ans d'emprisonnement, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Mais bon, c'est plutôt les hommes qui portent plainte. Et alors, dans le film raconte l'histoire de Noura, qui est très amoureuse de l'Assad, mais son mari Jamel sort de prison. Le divorce va être prononcé dans 5 jours. Et donc, toute la question, c'est de savoir si, pendant ces 5 jours, ils vont réussir à pas se faire prendre en délit d'adultère. Alors, bien que un tel sujet mérite évidemment d'être traité, je vous avoue que je me méfiais un peu. Je me disais, ah, encore un film à sujet. Je me méfiais d'autant plus que, pour avoir vécu et travaillé moi-même dans le monde arabe, au Proche-Orient, je sais d'expérience que souvent, les films distribués en France, ce sont pas forcément les films les plus intéressants, mais les films à sujet dont on postule qu'ils intéressent plus le spectateur occidental. Or, ce qui m'a enthousiasmé dans Noura Rêve, c'est que justement, il traite son sujet, il le traite formidablement bien, mais aussi, il le dépasse. Alors, il le dépasse comment ? Il le dépasse déjà grâce à l'intelligence de la narration qui ne s'attache jamais à juger les personnages, mais qui s'applique bien plutôt à montrer tout ce qu'il y a d'imprévu, d'irrationnel dans les relations amoureuses. Et ça, tant pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs. Grâce ensuite à l'interprétation de Anne Sabry, l'actrice principale, qui est absolument éblouissante dans le film. Je pèse mes mots, vraiment. Elle passe avec un naturel confondant par tous les états. Joie, angoisse, fatigue, perplexité, espoir, incertitude, rêve. Et d'ailleurs, le titre est assez joli, parce que Noura rêve, c'est-elle vraiment à quoi elle rêve? Et le savons-nous? Spectateur, ça pose la question. Et grâce, en dernier lieu, enfin, à une utilisation du son qui permet de convoquer hors champ toute l'histoire et la société tunisienne, mais sans nous la montrer. Ce qui fait que le film ne tombe pas dans le didactisme ou la pédagogie qui souvent alourdit et grève genre de film. Et donc voilà, c'est mon coup de cœur, parce que grâce à une mise en scène tendue, rigoureuse, Inde Boudjima réussit à la fois à traiter un sujet d'actualité brûlante et essentielle, et en même temps à faire exister à l'écran des émotions complexes et fortes, des émotions qui, moi, m'ont complètement transporté.
C'était le coup de cœur de Jean-Christophe Ferrari pour Noura rêve, Inde Boudjima.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier film à notre affiche, c'est Le Mans 66 de James Mangold. Dans un premier temps, il est quand même intéressant de se pencher sur le parcours de James Mangold. Je l'ai découvert, comme beaucoup, avec son deuxième film, Copland, en 1997, qui avait totalement réhabilité à l'époque Sylvester Stallone, qui jouait un flic usé. Alors, il était très bien entouré. Hein. Il y avait quand même Harvey Keitel, Robert De Niro, Ray Liotta, Cathy Moriarty, c'est-à-dire des acteurs très scorsésiens. Il y avait Une vie volée, deux ans plus tard, qui a permis à Angelina Jolie d'avoir un Oscar. Mangold a pris ensuite un virage, on va dire, plus commercial, avec des films comme Night and Day, Tom Cruise, Cameron Diaz. Il y a eu le biopic très remarqué de Johnny Cash, sur Johnny Cash, Walk the Line, avec Joaquin Phoenix, mais aussi un blockbuster dont on me dit, et surtout Boris Pinot, qu'il faut que je le voie, c'est Logan, c'était en 2017. Dans quelle veine allait donc se situer Le Mans 66? On va en parler avec Matt Damon et Christian Bale dans les principaux rôles. C'est un film qui revient sur la rivalité Ford-Ferrari.
How long we've known each other, Ken? I ever break a promise to you? I will put you in the driver's seat at Le Mans. You just shut your mouth and let me do my thing. All right.
Come here. Morning, Shelby.
Morning, Molly.
Up yours.
I'll go to hell.
Folks, Ferrari wins the 24 hours of Le Mans for the fifth consecutive year.
Mr. Ford, Ferrari has a message for you, sir.
What did he say?
He said Ford makes ugly little cars in an ugly factory. And he called you fat, sir. We're gonna bury Ferrari at Le Mans.
So the great Carroll Shelby is gonna build a car to beat Ferrari with a Ford.
Correct.
And how long did you tell them you needed? 200 or 300 years?
90 days.
Ford hates guys like us because we're different.
We heard he's difficult.
Ken? No, Ken's a puppy dog.
Le Mans 66, premier commentaire sur ce film de James Mangold, premier rapide tour de table, Jean-Christophe Ferrari. On n'a pas fait exprès, hein, mais vous êtes plutôt l'équipe Ford.
Oui, c'est vrai, j'avais
pensé. Tout d'un coup, je viens de l'entendre en 10 ans.
Plutôt exaltant.
Ouais, vous êtes la lignée d'Enzo ou pas du tout?
Non, malheureusement, non. Enfin, malheureusement, je ne sais pas d'ailleurs, peut-être.
Vous avez un haut un peu rouge, mais bon. Lucille Comeau?
Une grosse, grosse machine, hein, donc ça a à la fois ses avantages et ses inconvénients.
Corinne Rondeau.
Ouais, c'est bien fait la testostérone, ça fait du bruit quand il faut, c'est impeccable.
D'accord. Bon, Bah Jean-Christophe, vous commencez à nous à développer sur ce film.
Moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il réussit à faire quelque chose que le cinéma américain fait souvent très bien, c'est représenter ce que c'est qu'un professionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un professionnel ? C'est quelqu'un qui épouse complètement une action, un geste, qui veut réussir ce geste, cette action, et qui n'a que cet objectif. Et cela, non pas par éthique du travail bien fait, mais parce qu'il y a dans le fait de réussir parfaitement une action, quelque chose d'extatique, et quelque chose qui nous fait pleinement habiter le monde. Et ça, je trouve que le film le restitue très bien, et le professionnel, puisqu'il est obsédé par son action, il est souvent seul. Et le film met en scène aussi très bien cette solitude du professionnel, et il fait un parallèle que je trouve assez astucieux et convaincant avec la solitude du réalisateur dans les studios, puisqu'il y a un parallèle très net qui est fait entre l'industrie automobile, Ford, Ferrari, qui broie l'individualité des conducteurs, et le système hollywoodien qui broie la singularité des réalisateurs.
Lucille Como.
Oui, mais il faut peut-être dire quand même un petit peu ce que jouent les deux acteurs. Donc, quel est le rapport? Donc, en gros, Christian Bale joue une sorte de mécano de génie qui n'est pas américain, mais qui est
et
anglais.
Pilote de génie.
Qui a un accent, voilà. Qui est à la fois mécanicien et pilote. Et qui va être recruté et qui est un peu un hurluberlu parce qu'il est européen, bien sûr.
Et qu'il est anglais.
Voilà. Et qu'il est anglais. Et qui va être recruté par Matt Damon, qui lui est un ancien pilote sur le retour, disons. Par Ford, qui est en perte de vitesse à ce moment-là dans les économie de l'automobile, pour se recréer une légitimité par la course, là où ils étaient totalement absents. Et donc, c'est absolument inimaginable que Ford, dans quelques mois, réussisse à construire une Ford qui va battre les Ferrari. Donc, ceci étant dit, on est quand même...
Mais les 24 heures du mois, il faut peut-être expliquer, puisque visiblement, vous avez découvert...
Ah, mais ça, c'est génial. Je ne savais pas du tout que les voitures roulaient pendant 24 heures, donc j'ai appris des trucs formidables. Non,
mais
alors moi, en effet,
quand j'étais jeune, c'était une
alors,
course mythique. Mais c'est vrai que ça a complètement perdu.
Complètement,
il reste
ouais.
le bol d'or. Ouais. Mais les 24 heures du Mans, ça existe toujours ou pas?
Ah bah oui, ça existe toujours, oui. Mais alors d'accord. Moi je suis complètement à la ramasse.
Mais le bol d'or, qui est la même chose, mais pour les motos, vous
très
le saurez,
bien,
c'était au Mans également.
Je vais me renseigner là-dessus. Bon, là on est vraiment, enfin moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi gros film de studio, enfin vraiment la grosse machine hollywoodienne de studio qui se met en branle, avec bon, cette espèce
vous
d'histoire
avez vu,
tirée
Joker,
de fait
non,
réel.
Je crois.
Non mais c'est pas la même chose, bah, justement, alors là non,
oh bah
c'est
si,
pas
c'est
le...
la même
ah,
chose.
Non, c'est pas la même chose, là il n'y a aucune ironie,
c'est la même
enfin
chose.
On est vraiment dedans.
Ah bah il
n'y
a pas d'ironie dans le Joker.
Bon, on va pas revenir
là-dessus.
Il y a
du cynisme, c'est autre chose.
Et puis, il y a le truc d'idéologie américaine vraiment très, très, très à la papa. Donc, les héros sont des self-made men qui, en effet, réussissent grâce à leurs gestes et à leur propre obsession. Donc, l'intérêt du film repose quand même largement, enfin, est censé reposer largement sur ce duo. Donc, Christian Bale, Matt Damon, ultra oscarisable. Christian Bale a perdu 30 kilos.
Croyez vraiment qu'il
moi,
joue dans cette catégorie-là?
Bale, oui, je pense. Oui.
Ah,
oh,
ouais.
Oui, tout à fait. Oui, bah, l'espèce de performance.
Monsieur
Joaquin
Phoenix qui l'aura tout de toute façon, donc
ouais. Moi j'avoue, j'ai eu du mal beaucoup avec le jeu de Christian Bale, que je trouve très très outrancier. En revanche, Matt Damon continue à beaucoup m'intéresser comme acteur et dans ce film là
il commence moi à m'intéresser,
mais parce qu'il ne fait rien, il a exactement la même tête tout le
ça
temps
fait pas
il
longtemps.
Est complètement oui moi aussi mais je le trouve passionnant, donc j'ai surtout regardé lui. Après, le rapport, cette espèce de bromance comme on dit en anglais, donc d'amitié,
ils ont
viril,
fait la guerre ensemble,
masculinité tout sans cesse revendiquée, et assez pénible. Bon, là je rejoins un peu ce que je pense on va dire Corinne Rondeau. Il y a un passage absolument ridicule où ils se battent sur la pelouse en face de chez l'un d'eux, et où du coup la femme de Christian Bale sort, met son pliant à boire des bières, et puis ils se réconcilient autour d'une Budweiser parce que c'est super, c'est ça les États-Unis.
Tout est faux. Bon, Lia Magazine, elle leur apporte du coca. Bon, enfin bon,
donc voilà. Après, sur là où je suis d'accord avec Christophe, mais où j'ai été assez frustrée, c'est sur la question du geste. C'est sur le geste et la question de vraiment du sport, quoi. Moi, ça me fascine toujours à quel point le cinéma a du mal à s'emparer du geste sportif. Et là, il y réussit à mon avis à moitié. C'est-à-dire qu'il y a des formes d'agilité dans la réalisation et de vraie beauté de la mise en scène dans certains passages de course, dans les moments où notamment la caméra est en caméra subjective et où du coup on est comme dans un jeu vidéo à la place du conducteur, notamment les scènes de nuit dans la course des 24 heures du Mans. moment, tout ça, je trouve ça assez beau et assez fin. Mais c'est le problème, c'est que ça, c'est 20% des courses et que le reste, c'est extrêmement pénible avec des montages ultra rapides, des changements de point de vue tout le temps. Et ça, c'est pénible. Et c'est assez symboliquement incarné par l'utilisation de la musique. C'est-à-dire qu'il y a plein de passages où il y a une sorte de free jazz, enfin de jazz un peu intéressant, je trouve, à mettre par-dessus des bruits de moteur, par exemple, ou sur une course. Et tout le reste, c'est du gros rock qui tâche. Donc déjà qu'on a les moteurs en non-stop dans les oreilles, ce qui est pas inintéressant, mais avec du gros rock par-dessus, en fait, ça donne un film qui est très fatigant, à la fois pour des bonnes et des mauvaises raisons. Je sais pas trop comment dire. C'est-à-dire que je pense que la fatigue qu'il crée est en partie une bonne émotion de cinéma, vu le sujet, et en même temps, il y a des lourdeurs, quoi.
Corinne Rondeau.
Ouais, mais c'est fatigant.
Sur Le Mans 66.
Bah ouais, c'est fatigant.
Moi qui conduis
beaucoup, je peux vous dire, c'est fatigant.
C'est vrai que quand ils sont à 250 sur une ligne droite et qu'ils se regardent par la fenêtre.
340,
ils se regardent par la fenêtre.
Sur la ligne droite des Hunaudières.
Ça, si ça vous plaît, Lucie, il va falloir leur dire d'arrêter, quoi. Tu m'as vu? Tu m'as vu? Qui c'est le plus rapide? Mais c'est ridicule, c'est totalement ridicule, il faut arrêter ces trucs-là. Bon, moi, ça, tout ce qui est sur le Mans, c'est nul. C'est nul. C'est nul parce que attendez, Jean-Christophe, hein, c'est pas parce que, moi, c'est Rondeau. Il y avait Jean Rondeau, il est mort sur les voies ferrées, mais, qui faisait le tour, le Mans.
Le Mans, c'est un pilote, fameux pilote, ouais, on expliquera à Lucille.
Voilà. Et c'est pas bien, je trouve que, c'est pas bien parce que c'est un sport d'équipe, le sport mécanique. Et on ne voit que, le mec, qui va,
on voit quand même un peu les autres.
Non, très peu, très peu. Il y a quoi? Il y a Matt Damon qui va jeter un boulon.
Il y a le mécano à la moustache.
Il y a Matt Damon qui... C'est... Ce que j'ai aimé, à la limite, c'est le retour à l'artisanat par rapport à la grosse industrie. Et effectivement, sans aller jusqu'à le cinéma écrase aussi, même si ça fait partie de l'industrie. Toute industrie est dominante et donc forcément elle écrase les individualités. Mais ça, effectivement, on a toujours un plaisir de voir que les mecs sont précis. Le mec, il écoute à la radio le tour du Mans où il n'est pas. Il dit, là, c'est le carburateur, là, c'est les freins. Mmh. Et là, on est dans son fauteuil en train de jouir en se disant, oh, il est trop fort, pourquoi ils l'ont puni?
Enfin, il bosse pour Ford, hein, dans le genre industriel.
Non, mais attendez, il est puni de pas y aller parce que il est pas dans le moule.
C'est un marginal.
Donc tout ça, ça fait le beau portrait super divertissant, sexy, en se disant, le mec, il en a sous le capot, il en a dans le pantalon, c'est le mec qui sait. Et on le prive, bon. Et après, il y a le bon copain avec son Stetson qui va le sauver, etc., etc. Et puis, les enjeux derrière de packaging. Enfin, bon, moi, j'ai trouvé c'est un bon divertissement. Mais...
Ouais, je suis même pas sûr parce que ça fait quand même un peu plus de deux heures.
C'est un peu long.
Assez long. Moi, j'ai qu'un rêve qui ne s'est pas réalisé, c'était d'être pilote de Formule 1. J'aurais pu.
Vous êtes trop grand. Pardon.
Non, j'étais toujours trop grand. Donc effectivement, non, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'aime beaucoup les caméras embarquées dans la retransmission de Grand Prix. Et là, ça marche pas du tout, comme la plupart du temps. Non, mais c'est vrai que
virage,
vous dites.
Virage,
non,
trop
ça ne va pas du tout. Et ce qui est quand même extrêmement décevant de ce point de vue-là. Mais Matt Damon m'intéresse de plus en plus. Jean-Christophe Ferrari veut absolument me couper la parole. Allez-y. Doublez-moi.
Je voudrais juste revenir sur la question de la représentation du sport, parce que moi, j'avais effectivement très peur de ces 24 heures du Mans, et je trouve qu'il s'en sort très bien à cause
L'arrivée au Mans, le petit hôtel, le clochard qui hurle.
Il s'en sort très bien grâce à une astuce de scénario. J'appellerais ça un peu l'effet Titanic. Vous savez, dans Titanic, on nous explique comment le navire va chavirer, si bien que quand le film commence, on se préoccupe plus du tout de ces questions. Et là, il raconte à son fils exactement comment va se passer la course, si bien que lorsqu'on est dans la course, moi, je comprends chaque virage, chaque enjeu.
Sauf qu'il n'y a pas les peupliers.
Si, absolument. L'allée des peupliers, je comprends
sur
tout.
Sur le schéma.
Et ça me permet d'être pleinement dans la course.
Ouais, je suis pas d'accord du tout. Mais là, pour moi, ça fait partie de la lourdeur du film, comme la lourdeur de Titanic. Hein. Si on m'explique tout à l'avance, qu'est-ce qui se passe au moment où et là, du coup, il ne se passe rien pour moi pendant les courses, ce qui est quand même, à la limite, celle de Daytona qui précède est beaucoup mieux. Et c'est validé par Corinne Rondeau.
Il se passe la sensation.
Non, c'est ça le problème. C'est ce qu'on attend d'un film sur la vitesse, c'est que ça aille vite. Et ça traîne beaucoup, et c'est très lourd, et le Ford est quand même pas possible. Enfin, il y a quand même beaucoup de problèmes. Lucille Comeau qui veut toujours conclure, elle veut toujours avoir le dernier mot.
Non, pas du tout. Non, ce qui est dommage, c'est vraiment l'attention, pas seulement à la sensation et au geste, mais à la technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les moments, par exemple, où il est en train de construire la voiture et où il y a un prototype et puis que ça fonctionne pas et qu'on nous explique pourquoi ça fonctionne pas. Et c'est une manière de ne jamais vraiment faire confiance à son sujet. C'est-à-dire que c'est ça qui nous intéresse. C'est de voir le design de la voiture, comment il évolue, comment en quelques mois, en effet, ils réussissent à construire une voiture de course alors que Ford n'en a jamais eu. Bah ça, moi, ça m'intéresse alors que je m'en fous complètement des voitures, par exemple.
Un nouveau DVD avec...
Avec le montage
le director's cut.
Le Lucille Comeau's cut.
Plein de voitures.
Bon, pour l'instant, c'est pas la version de Lucille Comeau, c'est celle de James Mangold qu'on peut voir au cinéma. Le film s'appelle Le Mans 66. Avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. David Allen nous a rejoint en quatrième vitesse pour d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier et nous donner sa réponse. David ?
Quel réalisateur a adapté La Vie de Galilée au cinéma ? Et la réponse est Joseph Losey.
Ce soir, des invitations à gagner pour l'avant-première de Thomas d'Abel Ferrara. En présence d'Abel Ferrara, ça se passe au Festival Entrevue à Belfort. Ce sera samedi 23 novembre. Quelle est la question, David ?
Dans combien de films d'Abel Ferrara, William Dafoe a-t-il tourné ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Comeau, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir Théo Gomard, réalisation Émilie Vallard. Rendez-vous lundi à 19h pour une dispute théâtre avec Laura Capel, Marie Sorbier, Florian Guettet. Nous parlerons de Les Guêpes de l'été nous piquent encore en novembre. Associé à l'affaire de la rue de l'Oursine, soit Biri Baïev plus La Biche, mise en scène Frédéric Belli Garcia. Nous parlerons d'Infini, de Boris Charmatz et des Mille et Une Nuits, une création de Guillaume Vincent.